Bonjour à tous et merci d'écouter RFI. 11h en temps universel. Il est 13h ici à Paris.
RFI Midi, Anne Contner.
RFI Midi, 2h30 ensemble avec nos correspondants, avec nos envoyés spéciaux et à la une ce vendredi 6 juin. La rupture entre Donald Trump et Elon Musk, un divorce bruyant entre le président américain et le milliardaire qui a eu l'audace de critiquer le projet de budget de son ancien allié. Ça n'a pas plu du tout à Donald Trump.
Je suis très déçu car Elon connaissait les rouages de ce projet de loi mieux que la quasi-totalité des personnes assises ici. Je suis très déçu par Elon. Je l'ai beaucoup aidé.
Depuis, c'est le grand déballage avec des menaces de part et d'autre. On verra si le coup de fil prévu aujourd'hui permettra d'apaiser les choses. En attendant, nous essaierons de comprendre les conséquences possibles de cette nouvelle donne avec notre invité dans un peu plus d'une heure. Et on se penchera dans un instant dans le journal sur le cas particulier de la NASA et ses liens avec l'entreprise SpaceX d'Elon Musk. Le Gabon dénonce ses accords de pêche avec l'Union européenne. Les autorités parlent d'un partenariat profondément déséquilibré à renégocier. Détail dans quelques minutes. Et dans Afrique Midi, à midi et demi, temps universel.
RFI Midi.
Les députés français, eux, invitent le gouvernement à se pencher sur une éventuelle restitution de la double dette haïtienne, la somme exorbitante exigée par Paris pour reconnaître l'indépendance de son ancienne colonie au XIXe siècle et les décennies de paiement d'intérêts à des banques françaises. On y revient dans notre rendez-vous d'Haïti des Amériques à partir de 13h, temps universel. Avant cela, on parlera de la fast fashion et de ses dégâts. Entretien dans quelques minutes avec la coordinatrice de l'association En Mode Climat. Et puis dans notre Dieu meilleur européenne, on reviendra notamment sur la personnalité de la semaine, le choix de la rédaction. Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, champion d'Europe après la flamboyante victoire face à l'Inter Milan le week-end dernier. Voilà, vous avez le programme. Bienvenue. Et tout de suite, c'est le journal. Bonjour Marion Kazanov.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Parce que nous, on se connaît très bien, on va quand même donner votre nom de famille. Marion Kazanov, donc pour l'essentiel de l'actualité internationale, avec à la une la fin d'une amitié qui pourrait avoir de lourdes conséquences économiques.
Et celle entre Donald Trump et Elon Musk, ils étaient presque inséparables au début du mandat de Trump. Le milliardaire, patron de Tesla et SpaceX, a même eu un poste au gouvernement pour couper dans les dépenses publiques. Mais aujourd'hui, rien ne va plus. Ils s'écharpent chacun sur leur propre réseau social et ça va plus loin que de simples tweets désagréables. Bonjour Théo Conscience.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
La NASA pourrait être une des victimes collatérales de ce bras de fer.
Oui, le programme spatial américain s'est retrouvé hier au cœur de cette passe d'armes par réseaux sociaux interposés. Après que Donald Trump a menacé sur Truth Social d'annuler les contrats d'Elon Musk avec l'État, le milliardaire a annoncé sur X qu'il allait mettre hors service son vaisseau spatial Dragon, le seul habilité à acheminer des astronautes depuis les États-Unis jusqu'à la Station Spatiale Internationale. Si Elon Musk a finalement fait marche arrière quelques heures plus tard, il a néanmoins exposé au grand jour sa capacité de nuisance. Selon la numéro 2 de SpaceX, Gwen Shotwell, l'entreprise compte pour 22 milliards de dollars de contrats avec l'État américain. La majorité est liée à la NASA, au travers de la navette spatiale Dragon et du programme Artemis, qui doit permettre de renvoyer des astronautes américains sur la Lune en 2027. Mais une bonne partie de ces contrats concerne aussi le Pentagone. SpaceX lance régulièrement des satellites de renseignement de l'armée américaine et le ministère de la Défense a également commandé à l'entreprise la construction d'une version plus sécurisée du réseau de satellites Starlink pour les communications militaires.
Théo Conscience du service international de RFI.
Ce vendredi marque l'Aïd el-Adha, la plus importante fête musulmane, mais de fait il n'y en aura pas à Gaza.
Et difficile, même impossible de célébrer l'Aïd dans l'enclave palestinienne où la nourriture manque terriblement, l'aide humanitaire est dérisoire. Elle a même été bloquée à plusieurs reprises. En France, le parquet national antiterroriste vient d'ailleurs d'ouvrir une enquête pour complicité de génocide contre des franco-israéliens soupçonnés d'avoir participé à des blocages de cette aide humanitaire entre janvier et mai 2024. RFI, midi 4 à Libreville, le Gabon dénonce les accords de pêche avec l'Union européenne et le président Oligui Nguema veut pousser les 27 à les renégocier, Yves-Laurent Goma.
Dans son communiqué publié au terme d'un conseil des ministres, le Gabon dénonce un partenariat déséquilibré dont les retombées économiques restent largement insuffisantes par rapport aux richesses extraites par les flottes européennes. Le Gabon dit craindre des risques accrus de surexploitation des ressources sans bénéficier des investissements et de création d'emplois. Le poisson pêché est directement expédié en Europe depuis la mer, alors que Libreville souhaite qu'il soit débarqué et transformé dans le pays. En conséquence, conséquence, le chef de l'État a instruit le gouvernement de mettre en œuvre la procédure de dénonciation unilatérale de l'accord, précise le communiqué. Nous avons accueilli cette décision avec surprise, avec une certaine déception, parce que c'est une coopération ancienne qui a été conçue pour essayer de soutenir un intérêt mutuel, a réagi dans la presse locale l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne au Gabon. Tout en reconnaissant une décision souveraine du Gabon, Cécile Abadier affirme que l'Union européenne reste ouverte aux négociations. Yves-Laurent Goma, Libreville, RFI.
Et l'actualité africaine, c'est aussi cette rencontre qualifiée de chaleureuse en RDC entre le président Félix Tshisekedi et l'opposant Martin Fayoulou. Ils ne s'étaient pas vus depuis 8 ans. On y revient plus largement dans Afrique Midi, midi et demi, temps universel. Aux Pays-Bas, les législatives anticipées fixées au 29 octobre. Cela fait suite à la décision mardi du dirigeant d'extrême droite Geert Wilders qui a provoqué la chute de son gouvernement de coalition. Geert Wilders estimait que le gouvernement mettait trop de temps à mettre en place la nouvelle politique d'immigration qui se voulait très stricte.
En France, l'État risque d'être condamné pour ne pas avoir assez protégé la biodiversité.
5 ONG poursuivent l'État en justice. Elles avaient déposé un recours en 2022 et avaient gagné en première instance. Elles n'avaient toutefois pas obtenu ce qu'elles souhaitaient, à savoir une limitation des pesticides mis en vente. Aujourd'hui, l'affaire est donc examinée en appel par la Cour administrative de Paris. La députée européenne Marie Toussaint rappelle les dégâts de cet épandage de pesticides sur la biodiversité en France.
On vit un moment extrêmement difficile, un moment risqué pour l'avenir de l'humanité, si je peux me permettre d'être aussi grave, mais parce que c'est bien la situation dans laquelle nous sommes. On a cet effondrement du vivant. Alors on dit beaucoup quand vous prenez votre voiture, souvenez-vous, pour les plus âgés, pas pour les plus jeunes, mais quand vous étiez plus jeune, il y avait des insectes partout sur votre pare-brise. Il n'y en a plus aujourd'hui, et bien pour cause du fait de cet effondrement de la biodiversité largement basé sur l'épandage partout de pesticides, et bien 75% des insectes volants ont disparu pendant les 30 dernières années. Et où que ce soit qu'on regarde en matière du vivant, que ce soit sur les animaux, sur les végétaux, les chiffres sont absolument
sur les oiseaux,
affolants.
Notamment.
On a perdu énormément d'oiseaux au niveau européen. Et donc, il est temps d'agir. Et il y a des responsabilités pour cet effondrement du vivant. Et c'est précisément ce que disent les associations en soulignant le rôle de l'État, des États d'ailleurs au niveau mondial, pour enrayer cette perte de biodiversité.
La députée européenne Marie Toussaint était l'invitée internationale de RFI ce matin au micro de Julien Coquel-Rohem.
Toujours en France, le Parti Socialiste réélit à sa tête Olivier Faure.
Au terme d'un scrutin très serré, plus serré même que prévu, quelques 500 voix d'écart seulement avec le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol. Et déjà, les dossiers s'accumulent donc sur le bureau d'Olivier Faure. Il devra gérer les prochaines municipales, préparer la présidentielle de 2027 et se choisir des alliés, Aurélien Devernois.
Aucun triomphalisme du côté d'Olivier Faure. Le premier secrétaire reconduit s'est contenté d'appeler à poursuivre le travail commencé lors de sa première élection en 2018. Il évoque une dynamique à amplifier, référence au score encourageant réalisé l'an passé aux européennes et lors des législatives anticipées. Nicolas Mayer-Rossignol a de son côté admis sa défaite, contrairement au congrès de Marseille en 2023, où les deux camps s'étaient écharpés pendant des mois, mais le maire de Rouen rappelle qu'il pèse toujours la moitié du parti. Le souvenir de Marseille, il y a 2 ans, a manifestement pesé dans l'attitude des deux camps. Pas question d'exposer les divisions au grand jour, comme cela avait été le cas. Pour autant, la nuit a été agitée avec le camp d'Olivier Faure revendiquant la victoire dès minuit, suscitant la fureur de Nicolas Mayer-Rossignol pour qui rien n'était encore joué. En tout cas, s'il reste encore quelque chose qui n'est pas joué, c'est l'avenir du Parti Socialiste. Comme lors des 2 dernières années, Olivier Faure va devoir marcher sur des œufs, pas forcément évident, pour construire une stratégie. Même si cette élection aura permis de trancher un sujet explosif, l'alliance avec la France Insoumise, c'est terminé, clament les deux camps, en tout cas pour la présidentielle.
Aurélien Devernois.
Encore de belles glissades à venir sur la terre battue de Roland-Garros cet après-midi.
Et oui, il en faudra des sprints, des accélérations sur le court. Il faudra se battre sur chaque balle pour espérer une place en finale. Demi-finale homme cet après-midi. La première dans un peu plus d'une heure opposera le tenant du titre, Carlos Alcaraz, à l'italien Lorenzo Musetti. Ensuite, ce sera au tour d'un autre italien, numéro 1 mondial cette fois, d'entrer dans l'arène parisienne. Yannick Sinner affrontera le serbe Novak Djokovic. Un Sinner déjà au top niveau alors qu'il a récemment été suspendu plusieurs mois pour dopage, Eric Mamrut.
Sinner comme si de rien n'était.
Privé de tennis de février à avril, juste à la sortie de son sacre à l'Open d'Australie, l'Italien n'a en rien souffert de son chômage forcé. La preuve avec sa finale à Rome, atteinte dès son tournoi de reprise, et ici à Roland-Garros, où il a croqué ses 5 premiers adversaires sans perdre le moindre set. Arnaud Clément est impressionné.
C'est assez fort, justement, après quand même une interruption de 3 mois, tout de suite se remettre dans le rythme de la compétition de cette manière-là. Et physiquement, on sait que forcément, il a dû très très bien travailler et que sur la distance, il va réussir à la tenir.
Yannick Sinner, au point physiquement, est plus motivé que jamais, comme le pense l'ancien directeur de Roland-Garros, Guy Forget.
Il a faim, il n'est pas usé, il n'est pas usé par un début de saison fatigant. Donc lui, il a les dents qui raillent par terre, il est hyper motivé. Et quand il va arriver sur les derniers tours, il sera quasiment à son meilleur niveau, avec peut-être plus de fraîcheur que certains.
Et un Sinner à son meilleur niveau ne perd quasiment jamais. Seulement 2 défaites sur ses 43 derniers matchs. L'Italien de 23 ans, impressionnant de par la cadence qu'il imprime à l'échange, mais pas seulement, selon un autre ancien joueur français, Fabrice Santoro.
Il était monstrueux avant, il est redevenu monstrueux en un clin d'œil. Donc en fait, ce qui est fascinant, c'est pas sa vitesse de jeu seulement, c'est le peu d'erreurs qu'il commet en jouant à cette vitesse-là.
Et pour atteindre sa première finale à Roland-Garros, le numéro 1 mondial devra épingler son prédécesseur, Novak Djokovic, le Serbe face auquel il reste sur 3 victoires consécutives.
Mais toujours se méfier de Novak Djokovic qui glisse très bien sur la terre battue. On l'a même déjà vu faire le grand écart à Roland-Garros. Leur match, donc Sinner-Djokovic, sera la deuxième demi-finale. Elle ne débutera pas avant 17h temps universel. Ce sera donc après le premier duel entre le tenant du titre Carlos Alcaraz et Lorenzo Musetti. Et puis chez les dames, on connaît déjà l'affiche de la finale. Ce sera demain la numéro 1 mondiale contre la numéro 2 mondiale. Le classement est respecté. Arina Sabalenka affrontera Coco Gauff.
Merci Marion Casanova. À l'heure.
RFI. La France à midi.
La France où l'affiche de la marche des fiertés fait polémique. Un groupe juif, gay et lesbien et des élus de droite et d'extrême droite dénoncent la présence du drapeau palestinien sur l'image. Réponse de l'inter-LGBT, il s'agit des couleurs de la Hongrie et de la Bulgarie où ces marches sont interdites. En France comme dans le monde entier, des rassemblements sont prévus en ce mois de juin pour célébrer, pour défendre les droits des personnes LGBT. Il y aura notamment cette année une Pride des banlieues à Saint-Denis, à côté de Paris. L'objectif, c'est de mettre en avant les communautés lesbiennes, gays, queer ou transgenres dans des zones où il est parfois plus difficile qu'ailleurs d'assumer son identité. Reportage Lou Ecal.
On est la semaine avant la Pride et on est tous exténués.
La Pride des banlieues approche à grands pas. L'équipe de bénévoles se retrouve sur la terrasse d'un café à Saint-Denis pour les derniers préparatifs. Deux amies sont présentes, Fadi et Esma. Elles sont maghrébines, nées dans des familles musulmanes. L'une est bisexuelle, l'autre lesbienne. La Pride des banlieues, c'est le premier lieu queer où elles se sentent bien.
La communauté queer reste aussi des milieux très blancs et donc qui vont être racistes ou avoir des biais racistes. On ne m'acceptait pas en tant que maghrébine dans la communauté LGBT, m'acceptait pas en tant qu'LGBT dans la communauté maghrébine. La Pride des banlieues, je pense que c'est ça qui a servi, c'est de en fait regrouper toutes ces personnes-là.
Je suis d'accord, hein, forcément, le côté communauté de la Pride des banlieues. En fait, t'as pas besoin de parler de ces sujets-là, genre on se comprend sur la famille, sur la religion, sur le taf, sur les cours. Pour moi, c'est vraiment de la compréhension et le côté communauté.
Ici, pas besoin du masque qu'elle porte en famille. Les proches de Fadi, par exemple, ne savent rien de son homosexualité.
Pour moi, les risques, c'est voilà, qu'on me chope, qu'on me marie de force parce que mes parents, ils sont très tradition, voilà, faut se marier tôt, faut avoir des enfants tôt, ils sont très très religion.
Esma et Fadi vivent toutes les deux en banlieue parisienne. Leur réalité n'a rien à voir avec celle des personnes LGBT qui habitent les grandes métropoles.
Maintenant, j'habite en banlieue et je ressens bien la différence de la manière dont c'est traité, de la manière dont on parle. En fait, c'est le côté plus tabou et aussi l'accès à la culture, il n'est pas du tout le même. Donc l'accès à la culture queer, il ne va pas être possible.
On ne va pas avoir le même vécu, le même accès à la santé, le même accès au logement, le même accès au taf, à l'éducation, à la scolarité. En fait, on est tous dans la même galère. On est tous dans ce côté vraiment d'inaccessibilité, d'illégitimité.
D'où ce besoin de créer une Pride qui les représente. Ce qui n'est malheureusement pas le cas de la Marche des Fiertés de Paris, assure Tess, jeune queer qui n'y participe plus.
La Pride de l'inter-LGBT ne représente absolument pas ce dont la plupart des personnes racisées ou des personnes marginalisées ont besoin, parce que c'est plus devenu un festival. Ton identité, tu la vis comme un festival, enfin, c'est totalement ok, je dis pas que c'est pas ok, mais il y a des personnes qui ont besoin d'autre chose. Et aujourd'hui, la Pride des banlieues répond à ce besoin-là.
La Pride des banlieues, ce n'est pas qu'une marche, c'est un mouvement qui accompagne au quotidien les LGBT, rappelle Fadi.
On lutte tous les jours, on fait voilà, des interventions scolaires, on a des projets de distribution, on a des projets de débat. Je veux dire, même aux petits, en fait, c'est ok, c'est pas grave. t'es d'une famille conservatrice, t'es d'une famille très tradition, très religion, t'existes et nous on t'entend et on est là pour toi.
Après la marche, le travail continue pour les trois bénévoles. Tess veut visibiliser les identités queer à travers une série de photos. Esma et Fadi, elles, réalisent leur propre documentaire sur la Pride des banlieues.
Un reportage signé Lou et Cal à retrouver quand vous le voulez sur l'appli RFI Pure Radio. Vous aurez peut-être reconnu la musique. On va prendre un peu d'avance sur le programme et se pencher sur ce qui vous attend ce soir dans l'émission « Pourquoi RFI dit ça ?» avec Juliette Rangeval. Cette semaine, Juliette, la première question vous vient du Sénégal.
Un auditeur souhaite savoir pourquoi nous n'avons pas couvert la manifestation du 23 mai dernier, organisée par de nombreuses organisations civiles partisanes d'une criminalisation plus sévère de l'homosexualité. Alors, ce sujet de l'orientation sexuelle, il est particulièrement sensible. Nous y consacrons tout un dossier dans l'émission avec Léa Lisa Westerhoff, l'envoyée spéciale des RFI au Sénégal, mais aussi avec Laurent Corot, rédacteur en chef au service Afrique. La critique qui nous est souvent faite, c'est que nous voudrions promouvoir un modèle de société, une conception occidentale du couple, et que nous voudrions imposer finalement l'homosexualité à un continent qui la refuse en très grande majorité. Réponse de Laurent Corot.
Nous ne cherchons pas à promouvoir un modèle de couple parce que ça n'est pas notre rôle. Nous ne faisons pas de prosélytisme, nous faisons de l'information. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que nous sommes attentifs à la question des droits des minorités, quelles qu'elles soient, et nous considérons que quand on exerce des violences contre un individu en raison soit de son origine, soit de sa religion, soit de ses convictions politiques ou de son orientation sexuelle, eh bien, nous sommes tous interpellés. Il y a un sujet qui doit être porté sur la place publique.
Pourquoi RFI dit ça, Juliette? Et comment RFI parle-t-elle des phénomènes migratoires?
Sujet très souvent instrumentalisé à des fins politiques, la migration véhicule de nombreux fantasmes. Alors un collectif de journalistes et de chercheurs spécialistes de la question a élaboré une charte, la charte de Marseille, 11 points pour parler mieux de ce sujet, un peu comme le modèle de la charte qui existe pour parler du climat. Explication de Julia Montfort, c'est la porte-parole du collectif.
On espère qu'un journaliste qui va s'engager à mieux traiter, ou en tout cas à traiter ce sujet de manière plus précise et plus complète, avoir plus d'exigences pour traiter ce sujet-là, aura peut-être un impact sur le spectateur qui va écouter son reportage ou lire son papier. On espère aussi que peut-être les personnalités politiques qui utilisent le sujet des migrations comme une bonne marchandise électorale vont tendre l'oreille si les journalistes en face ont du contradictoire, sont capables d'apporter des faits scientifiques, de répondre, de faire leur métier finalement. Donc voilà. On aimerait bien que ça puisse avoir un effet un peu circulaire. C'est peut-être un vœu pieux, mais en tout cas, avec cette charte-là, on a cet objectif. Et puis surtout, on est très optimiste parce que nos collègues journalistes qui ont fabriqué la charte pour un journalisme à la hauteur des enjeux écologiques ont véritablement réussi à ce qu'il y ait des changements. Par exemple, on montre moins aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de traiter du sujet du réchauffement climatique, on montre moins un enfant qui va courir dans une fontaine, par exemple. Il y a eu un vrai changement.
Et notez que France Média Monde, le groupe auquel appartient RFI a signé récemment cette charte de Marseille sur la question des migrations. Je vous dis à ce soir pour Pourquoi RFI dit ça et je vous rappelle l'adresse pour nous écrire pourquoi@rfi.fr.
À ce soir, Juliette.
RFI, la France à midi.
Notre entretien avec vous, Véronique Rigolet, vous recevez Flore Berlingen, coordinatrice de l'association En Mode Climat et cofondatrice de l'Observatoire du principe pollueur-payeur.
Bonjour Flore Berlingen.
Bonjour.
Bienvenue sur RFI. Alors que les géants chinois de la fast fashion sont désormais dans le viseur du Sénat, les entreprises Temu, Shein, qui inondent le marché français et européen de vêtements expédiés à prix cassé depuis la Chine et au mépris de toutes les règles, notamment environnementales, eh bien, ces plateformes devraient être bientôt soumises à plus de régulations. On va y revenir dans le détail. Mais pour commencer, Flore Berlingen, est-ce que vous regrettez que les sénateurs aient quelque peu raboté la proposition de loi faite par l'Assemblée pour ne s'attaquer aujourd'hui qu'aux grandes plateformes chinoises et en épargnant les groupes français et européens comme Zara, Kiabi ou bien encore H&M?
Alors finalement, le texte voté lundi soir par les sénateurs, les modifications apportées par les sénateurs sont... pas si mauvaise entre guillemets, dans le sens où on a eu un rétablissement de l'interdiction de publicité qui avait initialement été retirée du texte, effectivement, ce qui constitue un recul problématique. On a eu aussi une précision sur l'application des pénalités qui doivent toucher les pratiques de la fast fashion. Ces pénalités, elles sont distribuées en fonction d'un coefficient de durabilité qui inclut les pratiques commerciales, et ça c'était extrêmement important justement pour toucher l'ensemble des acteurs de la fast fashion et pas uniquement quelques marques phares. Et puis effectivement on a cette définition de la fast fashion qui a été transformée en définition de l'ultra fast fashion, ce qui symboliquement est dommage parce que le problème il n'est pas né avec l'ultra fast fashion, malheureusement il est plus ancien que ça, problème environnemental, social et écologique, enfin problème environnemental, social et économique parce que l'industrie textile connaît quand même une crise, l'industrie textile française et européenne, et cette crise elle est bien antérieure à l'arrivée d'acteurs comme Chine.
C'est pour cela que les sénateurs ont décidé d'épargner les entreprises françaises et européennes parce qu'elles payent leurs impôts et créent de l'emploi.
Alors, elles ne sont pas épargnées,
pas
exactement
totalement épargnées, mais
à ce stade, parce qu'en fait,
totalement. Mais vous êtes d'accord que c'est les géants chinois qui sont vraiment dans le viseur du Sénat. Hein.
Oui, c'est effectivement le message très clair qui a été envoyé lundi
par
soir.
Par rapport à ce qui avait été décidé à l'Assemblée.
Oui, mais tout n'est pas encore fini. Hein. Toutes les discussions ne sont pas encore terminées concernant cette loi, puisque la prochaine étape ce sera celle de la commission mixte paritaire. Et donc on espère que certaines dispositions puissent encore être précisées pour maintenir le niveau d'ambition et puis pour permettre d'aider les acteurs qui au contraire ont des pratiques plus vertueuses de relocalisation de la production par exemple, ou des pratiques commerciales qui ne poussent pas à la surconsommation, mais qui au contraire encouragent à garder le plus longtemps possible ses vêtements, à les réparer, etc. Tout ça, c'est des ajouts sur lesquels il va falloir travailler dans les trois prochains mois pour que cette loi effectivement tienne ses promesses.
Donc c'est pas un simple texte protectionniste, vous nous dites, ça va dans le bon sens.
Ce n'est pas un texte purement protectionniste. Il va dans le bon sens parce que là, on a des bases de travail qui sont solides et qui permettent de s'attaquer à des pratiques et pas juste à des acteurs chinois notamment. Donc c'est vraiment le point qu'on voulait tenir de manière centrale. Ce qui pose problème, ce sont des pratiques qui sont pas vertueuses. La promotion systématique, le fait de remettre de mettre énormément de références sur le marché pour inonder le consommateur d'un choix infini, le fait d'avoir des prix cassés systématiques et des prix extrêmement bas qui constituent une contre-incitation à la réparation des vêtements, parce qu'évidemment si la réparation coûte plus cher, on va pas faire réparer le vêtement qu'on a acheté à 3 ou 5 euros. Donc voilà, c'est l'ensemble de ces pratiques auxquelles il faut s'attaquer, qu'elles soient le fait de géants chinois ou qu'elle soit le fait d'entreprises européennes.
Il faut rappeler que à l'inverse des pratiques européennes, sans doute et sûrement même beaucoup plus vertueuses, ces plateformes chinoises engendrent un véritable désastre écologique. Cette fast fashion chinoise, comme dit la ministre, vague irrésistible de produits de piètre qualité qui ne durent pas et qu'on retrouve généralement en fin de chaîne, hein, qui s'accumulent sur les plages du Ghana.
Oui, alors qui ne dure pas, il faut nuancer, parce qu'en fait, il faudrait pas. C'est une idée reçue qu'on peut avoir que la fast fashion c'est forcément de la mauvaise qualité ou en tout cas des vêtements qui ne résistent pas. En fait, ils peuvent être très résistants parce que ils sont en grande partie constitués de plastique, de polyester. Donc, il faut bien distinguer la question de la résistance physique dans le temps d'un vêtement et la question de son obsolescence ou du fait qu'on se défait d'un vêtement pour en racheter un autre, tout simplement. Et donc pour nous, ce qui est vraiment en cause, plus que la piètre qualité physique des vêtements, c'est vraiment la question des pratiques commerciales. Ce qui fait que effectivement ces tonnes de vêtements finissent sur les plages du Ghana, c'est parce que on est poussé à la surconsommation. Et effectivement, il y a aussi ce problème de l'usage massif des fibres synthétiques qui pose un enjeu environnemental et sanitaire parce que on sait tous comme maintenant qu'on a du plastique partout dans nos organes, dans notre sang et dans le lait maternel, et cette omniprésence du plastique, elle est causée en partie par l'industrie de la mode.
La surconsommation, vous l'évoquiez, que ce chiffre est effarant, 35 vêtements jetés chaque seconde en France selon l'ADEME, l'Agence de l'environnement, c'est 600 000 par an. Il faut sortir de ça, ouais.
Alors oui, il faut sortir de ça, mais en regardant l'amont, c'est-à-dire comment ça se fait qu'on jette tant de vêtements, c'est parce qu'on en achète énormément. Il y a, pour donner un autre chiffre, c'est une quarantaine de vêtements qui sont mis sur le marché par an et par Français. Quarantaine de vêtements neufs. C'est beaucoup plus, c'est deux fois plus que dans les années 80, et pourtant dans les années 80 on était vêtus de manière tout à fait satisfaisante a priori. Donc il y a vraiment une augmentation de la production de vêtements qui est poussée par une surproduction et qui se traduit en production de déchets considérables qu'on n'arrive plus aujourd'hui à gérer de manière satisfaisante.
D'où la nécessité de freiner l'essor de cette fast fashion. En réponse à cette régulation promise par le Sénat, qu'avez-vous pensé de la campagne hyper agressive de Chine qu'on a vue dans la presse, sur les réseaux sociaux, avec ce slogan « la mode est un droit, pas un privilège » et qui met... en quelque sorte le doigt où ça peut faire mal auprès de l'opinion sur le fait que s'il y a des sanctions, cela va impacter le pouvoir d'achat des Français.
Alors le lobbying de Chine a été hyper agressif, ça passait par des campagnes publicitaires, c'est aussi passé par un lobbying auprès des élus. Ils ont recruté des anciens ministres comme Monsieur Castaner pour faire ce travail.
Un ancien ministre de l'Intérieur. Le lobbying chinois va très loin.
Et d'autres responsables politiques qui ont été aussi recrutés dans les derniers mois par Chine. Donc oui, ils sont dans une campagne anti-régulation. Ça c'est certain. Ensuite sur ce point que vous soulignez, qui est leur argument principal, que en s'attaquant au bas prix, on pénaliserait des foyers modestes. En fait, c'est très cynique de leur part de dire ça, parce que en vendant des t-shirts à 1 euro, 2 euros, 3 euros, c'est de la pauvreté concrète. Ce n'est pas augmenter le pouvoir d'achat des Français que de faire ça, parce que on a par le même biais, délocaliser, détruit des emplois en France, détruit de l'activité économique. Donc, on a appauvri l'économie française. Et par ailleurs, tout en exploitant une main-d'œuvre à l'autre bout du monde. Donc, c'est un argument cynique, opportuniste, mais qui ne tient pas si on fait une analyse économique globale de la situation.
Mais pour autant, malgré la régulation nécessaire, on vient de l'expliquer, la mode à petit prix doit pas être négligée en France. C'est une nécessité.
Alors, en fait, la question, c'est celle de la quantité. La mode à petit prix, pourquoi pas, effectivement il faut pouvoir répondre à tous les budgets, mais dans quelle proportion, dans quelle quantité. Et aujourd'hui on sait qu'une quarantaine de vêtements neufs par an et par Français en moyenne, ce n'est pas soutenable. Donc il faut qu'on arrive à réduire cette quantité, et ça veut dire remettre en question les modèles économiques qui sont derrière, qui sont des modèles économiques fondés sur du volume. Il faut qu'on arrive à fonder ces modèles économiques sur de la qualité et non plus sur la quantité.
En quelques mots, la loi devrait être votée mardi prochain. Est-ce qu'elle pourrait servir de modèle à d'autres pays européens, alors qu'on le sait, l'Union européenne cherche également à réguler les plateformes de la fast fashion?
Oui, absolument. Cette loi française, elle est très importante pour faire bouger aussi l'Europe, effectivement, qui s'y intéresse. Mais on a besoin d'États membres qui tiennent des positions plus ambitieuses pour montrer le cap. Et là, notamment, sur l'interdiction de la publicité, on sait qu'il va falloir faire bouger des lignes au niveau européen si on veut que cette interdiction de publicité, elle puisse être complètement applicable. Donc, effectivement, c'est l'initiative française qui est assez inédite. Elle est extrêmement importante pour la suite, pour les autres pays européens, et puis même à l'échelle internationale, parce que
voilà, la France qui montre la voie. Merci.
C'est une démarche, en tout cas, qui est observée.
Merci, Flore Berlingen. Bonne journée à vous.
Merci beaucoup.
Flore Berlingen, coordinatrice de l'association En Mode Climat et cofondatrice de l'Observatoire du principe pollueur-payeur. Cet entretien est à retrouver quand vous le voulez sur notre site internet rfi.fr. Vous restez avec nous, on se retrouve dans 30 secondes pour une demi-heure consacrée à l'actualité en Europe.
Tout à l'heure sur RFI, sur le pont des Arts, Marjorie Bertin.
C'est le retour du gendarme de Abobo. La comédie ivoirienne à succès revient en salle le 11 juin avec une nouvelle mission pour le gendarme Goku et le lieutenant Leblanc. Nous en parlons en avant-première avec son réalisateur Antoine Vassil et son acteur vedette, l'humoriste Michel Gohou.
Sur le pont des Arts,
avec la compagnie Corsair.
Du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI.